BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderie.
Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition, cette nouvelle semaine de Tout pour investir en direct à la radio, à la télé, sur le web. Évidemment, l'ensemble de nos chroniques sont à retrouver sur podcast Tout pour investir, TPI, sur BFM Business, l'émission qui vous aide sur vos finances personnelles, qui vous aide à mieux investir, à être de meilleurs investisseurs, de meilleurs épargnants. Et aujourd'hui, on va parler puces. Mais oui, des puces, comme s'il en pleuvait. Des puces partout dans votre quotidien, vos ordinateurs, vos téléphones, dans les data centers qui alimentent l'IA, bien sûr. Bref, il y en a partout. Et même, bien sûr, d'une manière ou d'une autre, que vous le vouliez ou non, dans votre portefeuille. Et oui, ces semi-conducteurs qui font et défont les marchés, ça a quelque chose de vertigineux en termes de création de valeur, de capitaux engagés, mais aussi d'inquiétant quand on voit que ça peut, et ça le fait, déstabiliser le marché et provoquer de l'anxiété. Ça a été le cas, notamment en fin de semaine dernière. Gros plan sur ce secteur des semi-conducteurs avec Gustave Sandaine de Colbert et Tino Hugues du podcast de La Bourse qui sera avec nous en vidéo. Arbitrage de marché à court terme, bien sûr, aussi avec Jean-Louis Cussac de Perceval Finance Conseil. Et puis, toujours du pratico-pratique pour alimenter vos réflexions sur vos finances et votre patrimoine. La déclaration d'impôt, c'est fait. J'espère pour vous, sinon c'est inquiétant. Mais attendez, c'est pas fini, notamment en termes de fiscalité immobilière. Il y a peut-être des post-vérifications à faire suivant votre profil sur certains actifs. Vous inquiétez pas, on est sur le SAV aujourd'hui avec Valentine Roulin du cabinet Arsène. Gros plan sur les retraites aussi avec un certain Julien Desbenzal, dit Toro, notre spécialiste de la finance comportementale. Mais gros plan ce matin sur comment les Italiens gèrent leur réforme des retraites. Un exemple très intéressant et peut-être à suivre pour nous, qui ne nous en sortons pas décidément. Enfin, la tendance sur l'or, toujours beaucoup de questions sur le thème « Où va-t-on ?». On a vu qu'il y avait une forte correction. Il y a eu un petit sursaut en fin de semaine dernière, mais enfin, qui est resté un peu lettre morte. On reste sur le fil des 4000 dollars l'once. Est-ce que ce qui s'est passé en fin de semaine dernière a constitué un point pivot? On a quand même senti une inflexion à la baisse très nette sur le dollar. Ou est-ce que c'est juste une pause sur la pression à la baisse sur les cours de l'or? On posera la question à François Delassus, d'or en cash. Vous pouvez nous poser toutes vos questions par email direct@bfmbusiness.fr. Vous nous envoyez un SMS au 732-16. Sinon, vous tapez le mot-clé business suivi de votre message et directement sur mes comptes Twitter et LinkedIn si vous le voulez. Le reste de l'actualité du jour, les échanges de tirs se sont donc multipliés ce week-end entre les États-Unis et l'Iran, les premiers depuis la signature du protocole d'accord. Les deux parties vont suspendre ce matin leurs hostilités, c'est ce qu'ils déclarent, c'est ce que fait savoir en tout cas l'administration américaine. Les cours du pétrole, bon, sont un petit peu tendus. On est du côté des 73 dollars pour le baril de Brent de Mer du Nord. On est toujours sous les 70 pour le brut léger américain. On peut dire qu'il n'y a pas vraiment de réaction. Nouvelle menace de droits de douane aussi signée Donald Trump ce week-end. Le président américain qui promet 100% de surtaxe aux Européens qui mettraient en place une imposition des services numériques. Commission européenne qui se dit prête à réagir rapidement et avec détermination en cas d'exécution. Et puis, ça c'est un de nos gros titres de la matinale et on va en reparler, bien sûr, dans quelques secondes avec nos déchiffreurs. La Corée du Sud qui a détaillé son plan colossal d'investissement dans l'intelligence artificielle, plus de 1000 milliards d'euros sur 10 ans, avec déjà un premier projet d'un montant de 455 milliards qui comprendra 4 usines de semi-conducteurs, dont 2 construites par le géant Samsung Electronics et les 2 autres, devinez par qui? Par SK Hynix, bien sûr. Tout de suite, le tableau de bord de vos marchés.
Tout pour investir, le tableau de bord.
On commence la semaine en baisse pour le CAC 40. On a quand même mis fin à 5 semaines de hausse consécutive sur l'indice vedette de la Bourse de Paris. La semaine dernière, on était en baisse. Et là, on continue sur ce trend baissier. Moins 0,42%, on est à 8349 points. Moins 0,12% pour l'Eurostock 50, moins 0,04% pour le DAX à Francfort, moins 0,3% pour l'IBEX à Madrid. Tiens, on a Milan qui est dans le vert. Plus 0,29%, Londres en légère baisse, moins 0,18%. Et puis à noter l'Euronext Tech Leaders, alors qui lui est complètement à contre-courant et qui gagne 1,15%, 3046 points. C'est évidemment l'ensemble du secteur techno. Alors ça, c'est marrant, il n'y a pas de granularité. Comme on dit ce matin, c'est toute la techno qui est en hausse. Les semi-conducteurs, mais aussi les logiciels. Regardez STMicro qui gagne 3,2%. C'est la plus forte hausse du CAC à 64,65 euros. Mais on a Dassault Systèmes qui gagne 1,5% à 18,21 euros. Capgemini qui est bien orienté aussi avec une hausse de 0,65%, 90,26 euros. Qu'est-ce qu'on a du côté du SBF 120? Ben, regardez, Atos, plus 3,7%, 34,22 euros. On a Soitec aussi qui gagne 5,5% à 120,60 euros. Et une bonne performance d'Exel Technologies qui gagne encore 3,5% à 120,80 euros, alors que voilà, il y a l'entreprise qui est quand même sous le coup d'un projet d'offre de Safran. qui reste une des grosses opérations du moment, en tout cas si elle se fait, ce qui est peut-être moins sûr. Et si l'or Lusotica recule de 2,2% à 165 euros, Vinci moins 2 à 127,45 euros, Bouygues moins 2%, 48,74 euros, les valeurs liées au contracting, au BTP qui sont plutôt orientées à la baisse, Saint-Gobain aussi moins 1,8% à 79,16 euros. Et puis, curieusement, l'aérien qui est plutôt en baisse, hein, moins 2,6% pour Air France KLM qui est à 13,62 euros. Mais on a aussi Dassault Aviation à moins de 15 à 281,60 euros. ADP. Aéroport de Paris, qui est en baisse aussi, moins 2,07 à 113,30 euros. L'euro-dollar reste du côté d'1,14 sur ce petit sursaut qu'on a eu en fin de semaine dernière. L'or, je vous en parlais, 4063 $ l'once. Le pétrole, 73,30 $ pour le baril de Brent de mer du Nord, 70 pour le brut léger américain. Et tout de suite, on déchiffre l'actu du jour.
Tout pour investir, le déchiffrage.
Avec nous en plateau, Gustave Sandène de Colbert. Bonjour, bonjour Gustave. Antoine. Et par le truchement des ondes, par vidéo, nous avons Tino Hugues du podcast de la Bourse. Merci d'être avec nous en direct ce matin, Tino.
Bonjour à tous.
Ouais, soyez le bienvenu. Je vous le disais, des puces comme s'il en pleuvait hein, sur les marchés. Les grandes nouvelles, c'est les semi-conducteurs. On a ces investissements massifs du côté de la Corée du Sud, hein, qui se chiffre à 1000 milliards d'euros. Donc voilà, une barre symbolique, hein, une sorte de méga-capi qui naît ex nihilo du côté de la Corée du Sud. Bon, c'est clairement le marché qui fait la tendance en ce moment. On a un secteur, c'est les semi-conducteurs. On a une bourse, c'est la bourse de Séoul. Gustave, est-ce bien raisonnable tout ça? C'est la question qu'on se pose depuis des mois, mais là on se la pose d'autant plus.
Les États-Unis quand même, par la même occasion.
Oui, accessoirement. Mais enfin, ils fabriquent plutôt à Taïwan.
Accessoirement. Hein. Mais vous avez raison. Du coup, je regardais un petit chiffre, c'est quelle est la croissance finalement de ces valeurs sur les 14 derniers mois. Pourquoi? Parce que c'était le plus comparable avec 2000. On a plus de 244% de valorisation sur les 14 derniers mois. C'est pas très long, c'est à peine plus d'une année. La dernière fois qu'on avait eu un niveau de cet ordre, c'était justement la crise de la bulle Internet. Et je ne sais pas si on l'a tant commenté que ça, finalement, le fait que les semi-conducteurs avaient été également, ou avaient bénéficié de cette spéculation de la bulle Internet, c'était plus de 234%. Voilà. Donc, 10 points d'écart, c'est peu ou prou la même chose. Ouais. Je dirais qu'il y a une grande différence, quand même. Donc, effectivement, la suite, elle n'a pas été... Elle n'a pas été très heureuse pour ceux qui avaient suivi cette tendance-là, puisque c'est moins 80% sur la bulle Internet, donc ça fait une belle correction. Mmh. Mais il y a peut-être une différence. Je vous le disais hors antenne, ça me rappelle un parallèle avec finalement le monde de l'immobilier et la promotion immobilière. Dans les grandes crises immobilières, notamment celles des années 90, on avait ce qu'on appelle de la construction spéculative, où on dit construire en blanc. Ça veut dire que je n'ai pas de demande sécurisée, mais tout le monde a besoin d'immobilier ou un narratif un peu simple comme ça. Et là, donc, on trouvera preneur. Ouais. La Chine en a fait des frais plus récemment.
Voilà, on se souvient de ces images de cités géantes vides, fantômes.
Et c'est un peu ce qui s'est passé sur cette première crise, en tout cas, la crise de la bulle Internet sur les semi-conducteurs. C'est-à-dire qu'on construisait à blanc, on n'avait pas bien estimé la demande, il n'y avait pas une demande avérée. On se disait juste, finalement, pour faire de l'Internet, il nous faut des semi-conducteurs. Donc, investissons dans les semi-conducteurs. Là, en l'occurrence, la grande différence, c'est qu'on a des carnets de commandes qui sont pleins.
Et qui sont peut-être même trop pleins.
Ça, c'est une question tout à fait légitime. La première étape, c'est quand même effectivement que vous avez de la demande, et une demande qui est effectivement assez largement compensée, finalement, par quelques acteurs, une poignée, toujours les mêmes, les hyperscalers, donc grosso modo les GAFAM, plus Oracle. Ouais. C'est 700 milliards de demandes sur 2026. Et c'est aussi des entreprises, et là où on peut être un petit peu serein, c'est que c'est des entreprises qui ont les moyens de leurs ambitions. Faut pas l'oublier, c'est des entreprises qui ont un free cash flow, qui n'ont pas attendu l'IA pour gagner de l'argent.
Non, on est d'accord.
Donc c'est des entreprises qui utilisent aujourd'hui une grosse partie de leur free cash flow. Et si vous regardez l'évolution du free cash flow des hyperscalers sur les deux dernières années, on est grosso modo sur ce petit panel-là. Passer justement de près de 1 milliard de free cash flow à pas grand-chose, c'est-à-dire 150 milliards là estimés sur 2026. Donc on voit bien finalement d'où viennent ces flux, mais pour ce qui est des semi-conducteurs spécifiquement et pour boucler la boucle, on voit qu'effectivement c'est très cher, c'est de plus en plus cher, plus ça marche, plus c'est cher, mais en revanche il y a effectivement une demande en face. C'est quand même un point de différence important.
Il y a une demande. Maintenant, il y a deux écueils. Premièrement, le fait que on est en train de dépenser des fortunes et des capex absolument monstrueux macroéconomiques pour construire des data centers, de l'infrastructure, etc., qui peut être disrupté en deux coups de cuillère à peau, à savoir, vous voyez, le data center, là, ben, on n'en a pas besoin parce qu'on arrive à faire exactement la même chose que vous, mais avec des composants de la taille d'une tête d'épingle. Ça, ça s'appelle la disruption, c'est la loi de Moore. Il y a eu l'instant DeepSeek côté chinois, ça peut venir d'ailleurs. Il y a ce risque de disruption-là. Et puis, il y a l'autre, celui que Microsoft, d'ailleurs, c'est pas un hasard si le titre est un peu en délicatesse en ce moment, on a quand même un patron de Microsoft qui nous a dit bah, « Vous avez intérêt à l'adopter, l'IA, parce que moi, j'ai une décennie de business derrière qui attend. » Et s'il n'y a pas d'adoption, là, on risque une crevaison de bulle massive. Donc, il y a ces deux trucs qui pèsent hein, sur un scénario qui paraîtrait idéal, techniquement idéal, et qui menace toujours.
Ouais, je pense qu'il y a, en fait, il y a eu un premier trade qui était IA point. Tout ce qui raconte de l'IA, voilà, ouais. Ça montait. Mmh. Un deuxième trade qui était IA infrastructure, plutôt. Mmh. Et je pense qu'il va falloir qu'il y ait plus de granularité dans les analyses. Dans ce que vous venez de dire, il y a pas mal de choses différentes. Les semi-conducteurs, a priori, c'est peut-être la matière première la moins difficile à disrupter, ouais, ou la moins stratégique à disrupter aussi. Mmh. En revanche, les grosses infrastructures, les infrastructures lourdes, c'est là que ça pourrait être très, très pénalisant. Voilà. Ouais.
Effectivement. Puis on se souvient qu'il y a quelques décennies, il y avait eu aussi un boom de la DRAM, mais pareil, mais qui avait plus comme origine la téléphonie mobile, les renouvellements d'ordinateurs personnels et tout. Les prix avaient explosé, et puis les prix s'étaient totalement effondrés, et il y a eu des entreprises qui se sont fait rayer de la carte. Donc, il ne faut pas oublier ça. Tino Hugues, votre point de vue sur cette prépondérance du secteur des semi-conducteurs, je disais tout à l'heure, finalement, il en pleut tellement, on en a partout dans nos téléphones, nos ordinateurs, qu'on le veuille ou non, il y en a aussi dans nos portefeuilles boursiers. Et il faut se faire à une certaine forme de volatilité qui, des fois, peut être archi-violente, et notamment du côté de Wall Street ou du côté de la bourse de Séoul. Quel est votre sentiment? Quel est votre regard là-dessus?
Ben, c'est intéressant parce que vous l'avez dit, vous avez parlé notamment de la Corée, hein, qui a subi beaucoup de volatilité là, ces dernières semaines. Moi, j'ai envie de faire un petit focus sur Taïwan. Taïwan qui
c'est
est devenu.
C'est là que tout se fabrique aussi. Hein.
Ouais, et c'est devenu le cinquième plus grand marché action au monde. Je rappelle que Taïwan, c'est 23 millions d'habitants. Alors, on pourrait se dire, quelle est la problématique finalement? Il n'y en a pas vraiment. La problématique pour moi de ça, c'est que la hausse du marché à Taïwan ne repose pas seulement sur les fondamentaux de l'IA et de semi-conducteurs. On observe qu'elle s'accompagne d'un retour massif du levier avec des prêts sur marge proches des records de la bulle Internet et qui ont d'ailleurs doublé sur un an glissant. Donc tout ceci eh bien, vient aussi en complément et pousse donc un petit peu plus les cinq plus grands hyperscalers que sont Amazon, Google, Microsoft, Meta et même Oracle, qui devraient investir donc plus de 1 000 milliards de dollars de CAPEX IA entre 2025 et 2026. Donc la problématique éventuelle pour ces sociétés, c'est d'investir à une vitesse en fait beaucoup plus rapide finalement que la progression de leurs profits, au point de réduire fortement les rachats d'actions pour financer cette course au data center. Donc ça ressemble un peu, moi je fais un peu le parallèle de ce qu'on a vécu notamment l'année dernière, cette espèce de course à l'armement où chaque géant finalement investit massivement parce qu'il a peur de se faire distancer et aucun ne peut se permettre, vous l'avez dit vous-même, de rater le super cycle. Mais ce qui peut pour moi devenir dangereux, c'est que si tout le monde investit en même temps dans le même secteur, ce secteur peut devenir surinvesti, et offrir des rendements finalement décevants, en tout cas pas à la hauteur finalement des montants qui sont engagés. Voilà pour moi les craintes principales actuellement.
Ah oui, puis il y a aussi cette crainte de bulle, évidemment. Les bulles, ça crève toujours. Et on voit bah, des grandes voix. Je lis la Banque des règlements internationaux, tiens, par exemple, qui s'inquiète d'un possible risque de bulle. On a Ludovic Subran, le chef économiste d'Allianz, qui vient très souvent à ce plateau, bon copain, qui nous dit, là, c'est même plus qu'on se pose la question, c'est qu'il y a une bulle. Faut pas appeler ça autrement. Une bulle, ça crève. Est-ce qu'il y a des amortisseurs derrière? C'est ça aussi la question pour l'ensemble des marchés.
une bulle, ça crève, et ça crève quand? C'est toujours un peu la question. Ouais. C'est ça la question.
Puis à quelle vitesse aussi?
Qui vaut cher, et on sait à quel point ça coûte cher de rater les meilleures journées de bourse. Il n'y a pas si longtemps, on a eu quand même un super cycle de 9 semaines. Mmh. Des très belles journées de bourse, on en a connu encore cette année. Je pense que ce qui est dangereux dans toute révolution technologique, c'est d'opposer le risque de bulle ou les valorisations avec le choc finalement technologique qu'on observe.
Ouais.
Si on reprend les grands chocs technologiques des même 150 dernières années, les chemins de fer, est-ce que ça a changé le monde? Oui. Est-ce que c'était une bulle? Oui. Mmh. Internet, est-ce que ça a changé le monde? Oui. Oui. Est-ce que c'était une bulle? Oui. Etc. Etc. Mmh. On peut continuer longuement. Et donc, il y a une forme de narratif parfois qui, refuse ou réfute toute réflexion ou toute contestation des valeurs au profit finalement de la grande thèse de changement. On peut très bien être d'accord avec le fait que l'IA va nous révolutionner et considérer que c'est trop cher. Mmh. Et parmi les indicateurs, le plus récent, c'est probablement ou le meilleur exemple d'anecdote qu'on peut potentiellement raconter demain comme une bulle, c'est potentiellement l'IPO de SpaceX, et notamment le fait, je pense que si on regarde en termes de pure valorisation, c'est une entreprise, je le rappelle, qui perd de l'argent, moins presque 5 milliards de dollars de résultats l'année dernière.
Et qui est désormais notée obligation spéculative maintenant. Alors, quand elle émet de la dette.
Qui est notée investment grade, mais qui trade comme une obligation spéculative.
Oui, voilà, c'est ça. Donc par les marchés, voilà. On va dire.
Donc ça en dit effectivement long. Je parle même pas des multiples.
Ouais.
On est effectivement dans un schéma de forte tension. Les hyperscalers, ça y est, en fait, ils sont au maximum de leur capacitaire d'investissement. Mmh. C'est-à-dire que il y a plus de réserve sur les carnets de commandes. Mmh. Je disais, on est passé quasiment de 1000 milliards de capacité d'investissement à peine 100 milliards. Mmh. Les free cash flow, ça y est, elles sont épuisées. Donc il y a pas de réserve. Et ce qui est un petit peu affolant, c'est que même si effectivement, typiquement, les producteurs de semis ont augmenté leur marge, ont eu des résultats extraordinaires, Nvidia plus 85 encore sur le T1, tout le monde augmente ses marges, mais en fait, le problème, c'est que le prix continue d'augmenter. Donc, malgré l'augmentation des marges, qui devrait baisser les multiples continuent d'augmenter en parallèle. Donc, effectivement, vous avez d'un côté les réserves de flux qui commencent à s'amenuire, et de l'autre, des prix qui continuent de grimper, ce qui n'est pas un cocktail magnifique, tout dans un contexte où effectivement les spreads sur le crédit sont très resserrés.
Oui.
Et donc tout le monde se finance grosso modo à relativement bas coût, et ça pousse encore plus la spéculation parce que c'est une course à l'armement. Mmh. Je reprends une anecdote de Jeff Bezos d'il y a à peu près un an. Il disait, il y a deux types de bulles. Il y a les bulles inutiles et les bulles utiles. Et les bulles utiles, selon lui, c'est les bulles qui vont créer des chocs massifs d'investissement qui permettent des transformations technologiques majeures.
Ouais, d'accord.
Qu'on voit peut-être. Et les bulles inutiles, c'est peut-être celles qui jouent plutôt sur des FOMO ou des choses peut-être moins structurelles.
Ouais,
donc effectivement, si Jeff Bezos nous parle de bulles utiles, il y a peut-être de quoi se poser des questions sur la valorisation de ces placements. En tout cas, nous, on est très attentifs chez Colbert à quand même poser des garde-fous aujourd'hui sur les marchés. Une allocation 100% action, sans aucun hedge dans ce marché-là, ça me paraît optimiste.
Oui, petit peu, mais ça, en termes d'allocation d'actifs, surtout que Tino Hugues, vous êtes un bon copain de Mickaël Landreau, qui vient nous voir assez souvent pour parler d'analyse technique. Justement, la technique, vous nous parliez justement des effets de marge, parce que énormément de ces positions sont prises, et notamment du côté des marchés asiatiques, via des effets de levier très très importants, ce qui provoque des turbulences à court terme, qui touchent un petit peu le marché, et notamment Wall Street, on l'a vu ces dernières semaines. Est-ce que pour autant, on peut-être penser que du fait de sa moindre exposition à la tech et aux semi-conducteurs, quoique, en termes de capitalisation, les marchés européens sont un petit peu à l'abri de cette volatilité et pourraient constituer justement une forme d'îlot de sécurité?
Ça peut, parce qu'en effet, vous avez raison, ce qui quelque part a provoqué la sous-performance des marchés européens ces derniers mois, je dirais presque même ces dernières années, peut être aussi ce qui va provoquer la résilience des marchés. D'autant plus que si le dollar continue à performer, peut-être que les marchés européens, qui sont peut-être plus équilibrés, plus cycliques, etc., pourraient redevenir des marchés, je ne vais pas dire de surperformance extrême, mais à minima de valeur un petit peu refus dans un fonds de portefeuille. Ça, c'est évident. D'autant plus que dans le S&P 500, si vous voulez, parce que ce qui est quand même très intéressant, c'est que lorsqu'on regarde les 7 magnifiques, sur les 7 magnifiques de mémoire sur les 18 derniers mois, il n'y en a que 2 qui ont fait mieux que le S&P 500. seulement deux, qui sont de mémoire Google et Nvidia. Tout le reste a fait moins bien que le S&P 500. Tout ça pourquoi ? Parce que vous avez un indice, un ETF plutôt, qui s'appelle le XLK, qui est l'ETF en fait, qui représente le secteur technologique à l'intérieur du S&P 500, qui fait 28% de plus de performance sur les 9 mois glissants que le S&P 500 lui-même. Donc ça, effectivement, c'est ce qui a engendré, vous avez raison, la surperformance ces dernières semaines, ces derniers mois, même peut-être ces dernières années. Mais ce qui, c'est certainement aussi ce qui peut amener, on l'a vu aussi ces derniers jours, ces dernières semaines, de la volatilité. Donc voilà. Et pour revenir à ce que disait Gustave sur l'IA, c'est que ce qui peut paraître aujourd'hui contradictoire, si vous voulez, c'est que l'IA promet finalement de faire baisser les coûts de demain et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, elle fait monter déjà les tensions sur les semi-conducteurs, sur l'électricité, sur les data centers et sur beaucoup, beaucoup d'équipements industriels. Donc finalement, le paradoxe de l'IA, c'est que sa propre explosion qui est réelle, qu'on constate, qui est puissante, eh ben finalement, ça pourrait devenir son propre frein. Parce qu'à force de te faire des demandes et d'exploser les demandes en puces, en mémoire, en énergie, elle pourrait même faire exploser les tensions inflationnistes et ralentir donc la dynamique finalement qu'elle a créée elle-même. Donc pour moi, vraiment, là où les marchés vont vraiment faire attention, c'est sur ces sujets-là dans les prochaines semaines, les prochains mois.
Gustave, je vous voyais acquiescer sur les effets prix. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de vue claire. Je vous dirais que soit Sam Altman, que soit le PDG d'Anthropic, ils n'ont pas plus de vue claire sur où ils vont. Mmh. Oui. Mais sur les effets prix, ben là aussi, on a une forme d'opacité qui est quand même un petit peu paniquante pour les gens qui mettent les gros sous dedans. Quoi.
Je trouvais l'angle intéressant parce que finalement, si je devais le résumer de la manière dont je l'ai entendu, ouais. C'est finalement inflation industrielle, déflation servicielle. Parce que l'IA, tout de suite, c'est effectivement une baisse des coûts, a priori, dans l'industrie du service.
Mais oui.
Dans l'industrie... Industrie. C'est plutôt effectivement une inflation, voire une forte inflation. Les hyperscalers, à la base, c'est des sociétés asset light. On se rappelle que Facebook, c'est une application mobile.
On se rappelle que Nvidia, c'est MSI à Taïwan qui fabrique leurs cartes graphiques. Hein. On est d'accord.
Et là, on est plutôt là où l'impact industriel est fort, mais sur les modèles des hyperscalers, ou en tout cas comment on est arrivé là, et les free cash flow qui financent aujourd'hui cette expansion, c'était des activités asset light très génératrices de cash flow. Donc c'est un changement de paradigme sur la lecture de ces sociétés. Qui se transforment en fait, qui deviennent des players industriels alors que c'est à la base des sociétés servicielles.
On n'a pas fini de se poser des questions là-dessus.
C'est
clair. Gustave Sonnen de Colbert, Tino Hugues du podcast de la Bourse, merci infiniment d'avoir été avec nous pour commenter l'actu du jour. Et puis on rejoint tout de suite Jean-Louis Cussac de Perceval pour les arbitrages.
Merci.
Tout pour investir, arbitrage.
Ah, Jean-Louis Cussac, Perceval Finance, bonjour. Alors,
bonjour.
Moins 0,37 pour un CAC 40 qui donc la semaine dernière a mis fin à 5 semaines de hausse consécutive. On y voit quand même toujours pas bien bien clair sur ce marché. On tourne autour là, des 8300, 8400 points, mais pour l'instant il n'y a pas de franc signe de hausse dans les tuyaux. Et en même temps on a des supports assez constants. Vous allez dire qu'on se répète, mais le marché ne fait pas grand chose quand même.
Oui, les investisseurs attendent des avancées concrètes dans les relations américaines-iraniennes et en tout cas sur les accords, ils attendent quelque chose de concret et puis ils gardent plutôt un biais optimiste. Ils sont plutôt enclins à chercher les bonnes affaires. D'ailleurs, bon, le CAC, ok, il baisse de 0,39, mais là-dedans, vous avez le dividende de Total Energy qui pèse pour environ 7,8 points, donc c'est beaucoup, vous voyez. Vous avez déjà 0,10, là, c'est total. D'ailleurs, ça pèse un petit peu aussi sur l'Eurostox, hein, c'est 2,6. Et puis demain, vous aurez Publicis, 4 points. Donc, la période de dividendes n'est pas totalement terminée. Il y en a encore. Alors, ce qui est choquant, c'est le volume. On est quoi ? 400 millions à peine. C'est quand même vraiment, vraiment misérable. Donc les investisseurs, je vous le dis, restent optimistes. Les indices, ok, ils dérivent sur des points hauts, donc on peut dire que le signal d'achat technique, la tendance haussière n'est toujours pas infirmée. Donc l'idée reste jetant des achats sur repli. Moi, ce matin, on partait de 8004 hein, sur les futurs à 8 heures. Donc, j'avais proposé 8351,5 exactement. On les a fait. Et il n'y avait pas de raison de remonter le niveau parce qu'on est parti de 8004 et on n'a fait que baisser, en fait. Hein. Bon, on a baissé, rebondi un petit peu, baissé, rebondi un petit peu. Donc, voilà, un petit peu de baisse. On achète, on tente des rebonds. Vous voyez, ce comportement un peu opportuniste, je préfère l'avoir sur les indices plutôt que sur les actions, parce que sur les actions, c'est vraiment pas facile, je trouve, même si j'ai fait un peu d'ATO sur la zone basse, même si j'ai fait, là, tout à l'heure, un peu de Valourec sur un support technique. Alors, vous avez quoi? Vous avez ATO, Téléperformance, toutes les valeurs, là, qui ont été très affectées ces derniers temps par l'IA destructrice ou contributrice, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Là, c'est sûr que ces derniers temps, l'idée était plutôt à la destruction tous les ESN et puis pour toutes des valeurs comme Téléperformance. Bon, on arrive à un point bas, alors ça rebondit un petit peu tout de même. Mais c'est la chasse, on va dire là, à ce moment-là, ou peut-être aux opportunités, parce qu'à un moment donné, les investisseurs, ils savent plus non plus trop quoi acheter. Les spéculateurs sont dans le même cas, ils savent plus trop quoi acheter. Donc moi, je fais ces deux valeurs. Sur le CAC, donc c'était le 8350, la zone d'affirmation. On peut dire que tant qu'on évolue au-dessus de 8100, ben, il n'y a pas trop de problèmes. On est plutôt enclin à vouloir acheter. Après, sous 8100, c'est le premier warning, en fait, hein, qui peut nous ramener vers 7800, à peu près, où là, ça dessous, ça serait beaucoup plus défavorable, enfin, beaucoup plus baissier. On peut dire que 8100, 7008, ce serait la zone neutre, biais baissier. Bon, on n'en est pas là. On tient bien. Le moral reste plutôt bon. Ce qu'on peut regretter, c'est vraiment le manque de volume. On voit bien aussi que la volatilité de la liquidité reste très importante. Souvent, le manque de densité, même très important. On enfonce des portes ouvertes quand il y a des intérêts ou des programmes algorithmiques qui se déclenchent sur de l'arbitrage. On le voit sur les indices par rapport aux options. Mais en fait, on a une situation parfaitement identique au jour précédent, copier-coller.
Ça, c'est à retenir. Est-ce qu'il y a un actif en particulier que vous suivez, que personne n'a vu, où vous vous dites, oups, il se passe peut-être quelque chose, là?
Alors, il se passe quelque chose, pas vraiment, mais moi, je vous dis, là, j'ai fait de l'ATOS et j'ai fait un petit peu de Valourec. Valourec, elle a bien baissé ces derniers jours. Elle a perdu, quoi, 27%, un truc comme ça. Donc, c'est beaucoup et elle arrive sur un support technique. Alors, je commence à la travailler à l'achat avec... Vous voyez, un comportement plutôt dynamique. Et si le signal d'achat technique se déclenche, il faudrait qu'elle stabilise un peu, elle amorce un rebond. À ce moment-là, j'achèterai davantage et je laisserai porter. Mais aujourd'hui, si vous voulez, qu'est-ce qu'on observe? C'est une divergence de performance entre les actions qui est très importante, qui fait très peur aux investisseurs parce qu'ils se disent « si je me trompe, je me fais tuer ». Donc, si vous voulez... Il faut garder ce comportement hyper ciblé, opportuniste, parce que sinon, dynamique, hein, c'est-à-dire, pour l'instant, on ne laisse pas porter des grosses positions, on essaye de faire des écarts. Vous voyez, il n'y a pas de quoi se dire, il n'y a pas de conviction sur le marché. On n'est pas dans une situation où on se dit, hein, bon, cet investissement, je vais le laisser porter, etc. À moins de l'avoir, cette conviction. Valourec, je suppose que à ce niveau de prix, il y a des gens qui ont des convictions acheteuses sur Valourec. Bon, bah, à ce moment-là, on peut déjà commencer à faire des achats et puis se dire, OK, fonds de portefeuille. De toute façon, il n'y a pas de market timing. Hein. Là, c'est simplement l'idée qu'il y a un support technique. Mais il n'y a pas de market timing. Il n'y a pas de. C'est pas un signal qui se déclenche avec l'idée que ça va fuser dans les jours qui viennent.
Effectivement. Bon, ben, peut-être suivre Valourec, hein, ce qui se passe autour de Valourec, autour d'Atos, c'est vrai, hein, qui gagne 3,5% à 34,18€. Là, il y a moins de granularité sur la tech. C'est toute la tech qui monte pour une fois et c'était devenu rare ces dernières semaines. C'est aussi un petit mouvement à suivre. En tout cas, merci beaucoup. Jean-Louis Cussac, Perceval, moins 0,32% pour le CAC 48,358 points. Restez avec nous. Dans un instant, on ouvre la boîte à outils avec Valentine Rouline, avocate chez Arsène. Ben oui. Les déclarations fiscales, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et on va en parler, à tout de suite.
Tout pour investir, la boîte à outils.
La déclaration d'impôt, c'est fait, j'espère pour vous, parce que vous êtes un peu en retard sinon. Et on se dit, pff, voilà, on part en vacances tranquille. Il en vient encore. Et il faut être vigilant, et surtout quand on a des actifs immobiliers suivant son profil. On va faire le point sur tout ça avec Valentine Roulin, qui est avocate à la Cour, associée chez Arsène, manager chez Arsène même. Bonjour Valentine.
Bonjour.
Alors, après ces échéances, il faut peut-être faire un petit point sur les actifs immobiliers, ce qu'il y a quand même à garder à l'œil en cas peut-être de réflexion de l'administration, de rectification éventuelle, etc., pour éviter tout petit écueil à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut faire le point un petit peu sur les choses, les points à relever qui sont importants ?
Tout à fait. Alors, en effet, c'est quand même toujours intéressant, voire utile, de se poser la question, même à l'issue des échéances déclaratives. D'abord, parce qu'on n'est jamais à l'abri de l'oubli. Et puis ensuite, parce qu'on se rend compte en pratique qu'on est toujours la situation est toujours plus simple à régulariser dans le cadre d'une régularisation spontanée que dans le cadre d'un contrôle fiscal. Et puis ça permet de reprendre la maîtrise des enjeux et puis potentiellement de limiter les pénalités. Donc ça reste toujours pertinent. Pour ce qui concerne les investissements immobiliers, vous le mentionnez, il y a plusieurs obligations déclaratives assez spécifiques, à la fois pour ce qui concerne la détention directe d'immobilier et également au travers de structures. Et certaines de ces déclarations peuvent concerner les structures elles-mêmes, on en reparlera plus en détail. Si on revient sur les trois grandes catégories d'obligations déclaratives, c'est important d'avoir à l'esprit d'abord l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, qui est un impôt relativement technique à appréhender et parfois à déclarer, notamment quand il y a des détentions indirectes au travers d'une multitude de sociétés. Et l'IFI, c'est un impôt également parfois assez complexe dans ses aspects déclaratifs. D'abord parce qu'il y a des enjeux de valorisation qui sont clés. C'est important de rappeler que c'est un impôt qui porte sur le patrimoine net imposable au 1er janvier. Donc, il faut pouvoir déterminer la valeur de son immobilier à cette date-là. Ensuite, il y a des enjeux de déductibilité des dettes. Le principe, c'est que le patrimoine net est imposable. Mais pour autant, il y a un certain nombre de dispositifs qui peuvent venir limiter la déduction de certaines dettes. Et puis enfin, il y a des dispositifs d'exonération, notamment pour les biens professionnels, qui peuvent également être complexes et donc il faut correctement anticiper.
Bon, sinon, il y a une taxe de 3% qui paraît être quand même quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'œil, parce que du coup, là aussi, ça peut un petit peu attirer la suspicion du fisc, dans le sens où si une déclaration est mal faite, il peut y avoir des conséquences.
Exactement. Alors, cette taxe de 3%, c'est une obligation déclarative qui est assez peu connue du grand public. C'est une taxe qui est très rarement payée à partir du moment où on s'est assuré qu'on respectait ses obligations déclaratives ou qu'on était éligible à une exonération du fait du statut de certaines sociétés, typiquement des sociétés cotées ou des fonds de pension qui ne sont pas dans cette, qui sont exonérés de cet impôt. Et donc, la taxe de 3%, c'est une taxe qui vise toutes les entités juridiques, françaises ou étrangères, qui détiennent de l'immobilier en France. L'objectif de cette déclaration, c'est chaque année d'informer l'administration sur l'identité des associés de ces sociétés qui détiennent de l'immobilier, et puis de dévoiler et d'identifier toute la chaîne de détention d'un actif avec l'objectif d'identifier les bénéficiaires ultimes des actifs immobiliers. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent être effectivement situés à l'étranger ou ils peuvent être dans une situation où il y a des sociétés interposées. Et l'objectif de cette taxe et de ces déclarations pour l'administration fiscale, c'est de s'assurer que les bénéficiaires personnes physiques ultimes sont bien en conformité vis-à-vis de leurs obligations en matière d'IFI ainsi qu'en matière d'impôt sur la transmission des titres le cas échéant.
Oui, donc bref, plus c'est complexe, plus on a intérêt à vérifier parce que, encore une fois, les conséquences peuvent être complexes.
Tout à fait. L'enjeu, rappelons-le, la taxe de 3%, si elle n'est pas correctement déclarée, et comme son nom l'indique, c'est 3% de la valeur vénale des immeubles. Donc là, pour le coup, l'effet de déduction de la dette, typiquement, il ne jouera pas. Donc ça peut être des impacts assez significatifs. Et également avoir à l'esprit que le fait d'être exonéré d'IFI ou d'avoir correctement déclaré son IFI n'exonère pas automatiquement de l'obligation en matière de taxe de 3%. Donc elles se cumulent, ces obligations déclaratives.
je vais faire appel à votre sentiment de professionnel, maître, mais ça touche plus souvent les particuliers, les entreprises, ou c'est un petit peu tout en même temps ce genre de problèmes qui peuvent arriver post-déclaration?
Tout le monde, par nature, est concerné hein, par la question de savoir si ils sont en conformité avec leurs obligations fiscales, et les entreprises en ont également un certain nombre. Mais c'est vrai que la détention du patrimoine immobilier par les investisseurs privés, elle entraîne un certain nombre d'obligations qui, par nature, sont probablement ou potentiellement moins connues et maîtrisées des investisseurs, qui ont peut-être, soit pas forcément les outils ou les conseils pour faire face à cette complexité. Parce qu'encore une fois, on voit bien qu'aujourd'hui, on est quand même dans un système qui est quand même de plus en plus compliqué à appréhender. Il faut être extrêmement, extrêmement vigilant pour les investisseurs privés. Résidents et non-résidents aussi, ce qui ajoute un niveau de complexité quand on est non-résident. Et pour autant, on est quand même soumis à l'ensemble de ces obligations déclaratives en France.
Et dernièrement, ça vous arrive d'avoir, je ne sais pas, des clients privés notamment, parce que après, dans les entreprises, ça se gère différemment, mais des clients privés qui se retrouvent avec des grosses galères, je crois qu'on ne peut pas le dire autrement, hein, du côté de leurs déclarations et des conséquences pour l'administration?
Oui, tout à fait. On voit bien qu'en pratique, il y a un niveau de contrôle hein, assez élevé qui est pratiqué par les services fiscaux. Et puis aujourd'hui, elle dispose l'administration fiscale de plus en plus d'éléments au travers notamment de certaines déclarations. Et elle recoupe l'ensemble de ces informations. Et donc, ça déclenche des situations de contrôle. Et comme on le disait en début de discussion, hein, on est toujours plus confortable et on maîtrise toujours mieux la situation quand on a anticipé, donc notamment au travers d'un audit de sa situation ou d'une régularisation spontanée, plutôt que quand on attend et qu'on est dans le cadre d'un contrôle fiscal.
Effectivement, jamais être trop prudent en tout cas pour ce genre de choses, parce que c'est vraiment des choses très complexes qu'il faut garder à l'œil et toujours avoir l'œil du professionnel avec soi. Maître, merci infiniment à Valentine Roulin, avocate à la Cour, associée chez Arsène, au cabinet Arsène. Merci d'avoir été très complète hein, sur ce point très technique. Tout de suite, le placement à suivre.
Tout pour investir. Le placement à suivre.
Et on retrouve Julien Nebenzal d'Itoro. Bonjour Julien. Merci d'être en direct en plateau avec nous ce matin. Alors c'est vrai que d'ordinaire, on écoute un petit peu vos commentaires toujours passionnants sur les biais comportementaux. Ouais, là il est peut-être aussi question de biais comportemental, mais à l'échelon des États qui se sont dit on a du mal à réformer notre système de retraite. Alors, il y a la solution du biais comportemental français qui est on verra ça à la prochaine législature, hein, de toute manière. Résultat, c'est une catastrophe. Et du côté des déficits, on atteint des situations critiques. Et puis, il y a un pays qui a longtemps été critiqué pour ses finances publiques, pour la gestion de ses finances publiques, de ses problèmes de déficit, etc., qui s'appelle l'Italie, qu'on regardait comme un pays du Club Med, vous vous souvenez, on les appelait comme ça, les Grecs, les Italiens, les Espagnols, etc. Ouais, ben entre-temps, ils se sont retroussés les manches avec des recettes propres à eux qui diffèrent alors totalement de nos recettes à nous, quoique, vous allez nous dire ça. Mais voilà, ils se sont pris en main et globalement, ça commence peut-être à porter des résultats et c'est peut-être un exemple à suivre et dont il faudrait s'inspirer, Julien.
Oui, c'est ça. On a une problématique de retraite dans tous les pays européens. Vous avez mentionné les pays du Sud. Évidemment, si on regarde les pays du Nord, ils ont compris il y a déjà 20 ans ce qu'il fallait faire, c'est très bien organisé, ils n'ont pas le problème qu'on a, ils n'ont pas de dettes qui s'empilent pour financer les retraites, mais ça, ce sont les pays du Nord, c'est une autre culture.
Ils ont des fonds souverains,
Pour la Norvège, des fonds souverains, mais aussi plutôt une habitude culturelle de dire, on a un problème, on va le traiter maintenant, ça va être un peu une souffrance, mais on va le faire tout de suite pour que ce soit moins dur plus tard. Alors qu'évidemment, on pourrait dire, chez les Latins, c'est différent, dont on fait partie. Mais justement, l'exemple de l'Italie est pas mal, parce que d'ailleurs, quand on fait le comparatif France-Italie, on n'est pas au football. Je ne cherche pas à définir un vainqueur. Hein. Je cherche plutôt à regarder pour essayer de prendre des idées de ce qui se passe ailleurs. Et il y a deux choses, peut-être trois, mais au moins deux choses qui me semblent très intéressantes à connaître. D'abord, c'est qu'en Italie, autour de les mécaniques de produits de retraite, le régulateur a imposé en fait à l'industrie un comparatif des frais complet, exhaustif, avec une matrice de lecture qui est la même pour tous, Donc quand vous allez ouvrir un plan d'épargne retraite, l'équivalent, j'utilise ce terme, l'équivalent, vous voyez les frais sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et quand vous regardez une autre offre à côté, vous avez nécessairement la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez comparer, et quand je parle des frais, c'est pas les frais de l'enveloppe, c'est les frais de l'enveloppe et des supports qui sont dedans. Mmh. C'est-à-dire que les calculs doivent être faits pour que les épargnants puissent comparer, sur une base totalement commune, l'ensemble des frais.
C'est assez curieux, parce que, enfin, assez contre-intuitif, dans le sens où on se dit, bon, l'Italie est quand même extrêmement libérale du côté de sa gestion des affaires, alors que là, on a une sorte de forme de plafonnement d'État des frais des sociétés d'assurance, des gestionnaires, des banques, etc.
Alors, le plafonnement, c'est véritablement pan-européen. Dans le projet PEPP, mais peut-être qu'on n'en parle pas aujourd'hui, mais il y a une mécanique de plafonnement. Ouais. L'AVD allemand qui sort en janvier, qui est un produit d'épargne retraite, il va être plafonné aussi à 1% pour une partie. Mais quand on regarde justement le comparatif des frais de tous les acteurs qui proposent l'épargne retraite en Italie, on voit qu'à partir de 15, 20, 25 ans, tout descend en dessous de 1% chez tous les acteurs. Et on n'est pas là dans du comportemental, en tout cas pour l'épargnant, mais on est dans du factuel. Mais on sait une chose, c'est que 0,5% ou 1% de frais sur 20 ans, c'est considérable sur une épargne.
Ça va tout changer même.
Voilà. Mmh. Donc eux, ils ont décidé de faire ça. Alors nous, la loi PACTE, le PER, obligation de transparence des frais, on est très bien. Il ne s'agit pas de dire que notre système n'est pas bon, mais ils sont allés plus loin. Parce que nous, en tant que professionnels, on sait bien que on peut avoir des frais bas, mais si on prend une unité de compte qui sont extrêmement chargées en frais, on ne se retrouve pas avec des frais bas à la fin. Là, le point italien est vraiment très intéressant et peut-être qu'il pourrait être discuté dans le cadre de la révision du PEP européen, justement. Parce que leur approche est vraiment intéressante et je pense qu'elle conviendrait aux Allemands aussi. Il y a un deuxième volet qui est alors là typiquement italien. C'est pas facile à expliquer, mais c'est comme si en Italie, votre employeur, chaque année, il doit mettre l'équivalent d'un mois de salaire de côté pour vous. Et en gros, vous le touchez, quoi qu'il arrive. Ouais. Et vous le touchez quand vous quittez l'entreprise.
Ouais.
Mais ce que les Italiens ont dit, ils ont dit, mais cette somme, eh bien en fait, le salarié peut décider de le mettre dans un plan d'épargne retraite.
Pour le faire
chaque
bosser.
Année. Ouais. Chaque année. Mmh. Voilà. C'est un succès. Ça marche vraiment très bien. Et en fait, quelle est la différence? Si un employé quitte l'entreprise au bout de 5 ans, le fameux mois, il n'a pas porté intérêt. On l'a mis de côté pendant 5 ans. Tandis qu'en le mettant dans l'épargne retraite, il a commencé à porter intérêt et les gens comprennent à ce moment-là très vite la notion des intérêts composés. C'est-à-dire que mes petits que je fais aujourd'hui font plus de petits demain, etc. etc. Alors on pourrait dire qu'en France, on a l'épargne salariale qui marche très bien.
Il y
a
un vrai succès. Absolument.
Sauf que l'épargne salariale dépend des employeurs, dépend des systèmes mis en place. L'épargnant, celui qui veut préparer sa retraite, il doit naviguer là-dedans. Tandis que dans le cas italien, c'est à lui, c'est lui qui peut choisir.
Parfait, ouais.
Voilà.
D'accord.
Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant à voir, de relier l'entreprise, mais dans un schéma où l'individu peut prendre ses décisions et choisir où est-ce qu'il va placer son argent.
Et le tout avec une optique qui est assez intéressante, dans le sens où ça laisse toute liberté aux banques de faire ce qu'elles veulent, enfin aux gestionnaires, aux assureurs, etc. Mais voilà, en coopération avec l'État qui fixe les règles du jeu et qui dit, voilà, moyennant ça, ça et ça, faites ce que vous voulez. Mais après, il y a une vraie lisibilité. Et c'est vrai que c'est intéressant.
Et on va retrouver des points communs, parce que là, j'ai parlé des différences. On va retrouver le point commun. Le cadre de l'épargne, il est complètement encadré par le régulateur, comme c'est en France.
Bien sûr.
Donc ça, c'est ce qu'on peut faire à l'intérieur. Quelle est la partie qui est en capital garanti, un peu comme le fonds en euros.
Voilà.
Et quelle est la partie qui est plus exposée au marché, ce qu'on appelle l'unité de compte. On a le même raisonnement en Italie. Donc, on voit bien qu'on a des choses qui sont extrêmement communes. La manière dont c'est fait là-bas est une manière, comme vous l'avez dit, sans doute un peu plus libérale. Mmh. On transmet la responsabilité à l'épargnant, mais c'est quand même dans le cadre, souvent, de l'entreprise. C'est dans une cadre de transparence des frais qui est maximale, ce qui permet de rassurer les gens aussi, parce qu'ils ne savent pas. Toute personne qui veut commencer à épargner voit les frais, se demande si c'est au bon endroit, si c'est la bonne chose, s'il a tout compris, s'il a tout vu.
Ouais.
Là, ce schéma vraiment permet beaucoup de choses. Et je pense, alors là c'est pour nous qui sommes pan-européens, je pense que c'est le fait de parler de l'Italie aujourd'hui, de parler ailleurs, on pourrait parler de l'ISA anglais, qui a aussi des intérêts, même si c'est pas en Europe, mais le fait qu'on puisse échanger autour de ça, et dans le cadre de la révision qui va avoir lieu cette année du plan d'épargne, donc le PEPP, le projet de fonds de pension européen, peut-être que ça peut nous permettre de rassembler les bonnes idées quelque part, et d'arriver à fixer un cadre. Parce que, et c'est là où il y a un enjeu pour tout le monde, si on arrive à créer des produits portables en Europe, et c'est le projet, c'est les idées qu'il y a en Italie, c'est les choses qui existent déjà dans le monde assurantiel, ouais. C'est-à-dire je suis en Allemagne, je vais travailler en Italie, mais je continue avec la même enveloppe à mettre de côté, et j'ai toujours les mêmes frais, la même compréhension, mais ça c'est une avancée qui est majeure.
Ouais,
parce que si on fait ça et qu'on couple avec une bonne information aux plus jeunes, on va dire ceux qui ont moins de 40 ans,
ouais.
qui c'est essentiel de faire ça, mais qui commencent dès maintenant dans un système comme ça, qui est incitatif, qui est coordonné,
ouais.
on va vraiment, on aura mis en, avec nous les moyens pour dans 20 ans de ne plus parler du problème tel qu'on en parle aujourd'hui.
Voilà, parce que c'est, encore une fois, il n'est pas question de bousiller le système, d'imposer des solutions radicales, etc., mais juste de fixer un cadre qui pourrait convenir à tout le monde. Et effectivement, c'est une réflexion très intéressante. Merci infiniment de l'avoir eu avec nous en plateau, Julien Nebenzahl di Toro. À une prochaine fois pour justement parler peut-être de ces problématiques de retraite ou alors des biais comportementaux des marchés, comme d'habitude. Restez avec nous dans quelques instants. On va terminer l'émission par le coffre-fort, bien sûr, et on va parler d'or. À tout de suite.
Tout pour investir, le coffre-fort.
François Delassus, d'or en cash. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être là avec nous, parce que c'est vrai qu'on n'y voit toujours pas clair autour de l'or. On a cru qu'il se passait quelque chose en fin de semaine dernière. On a vu le dollar commencer à trembler. Le roi dollar, là, en ce moment, qui rallie tous les suffrages. La valeur refuge du moment, qui a même éclipsé l'or. Et du coup, l'or a repris un petit peu d'épaisseur. On est allé au-dessus des 4100 dollars l'once. Et puis, le soufflet est complètement retombé. Alors que le dollar reste sur ses positions de correction. On est à 4057 dollars l'once. Est-ce que vous voyez un changement de paradigme, une dynamique nouvelle qui s'est créée, ou est-ce qu'il faudrait vraiment que ce soit vérifié dans le temps pour pouvoir s'imposer?
Bon, il y a deux choses dont il faut se souvenir. On est à mi-année, donc c'est intéressant de faire un bilan.
Bien sûr, oui. Premier mois.
Bon, c'est vrai que l'or, il a en moins d'un an, il avait dépassé les 4000 dollars. En moins de 78 jours, il avait dépassé les 5000 dollars. Donc, il a eu une hausse assez faramineuse.
Il faut voir d'où on vient.
D'où on vient. Et c'est vrai que pour certains experts, ils pensaient peut-être que l'or avait été suracheté.
Mmh.
La part grandissante dans les portefeuilles font aussi qu'il est considéré, il a pu être considéré comme un actif normal, négocié, à négocier et vendre. Et c'est vrai qu'il a, il avait, depuis le début de l'année, il est à moins 2%, moins 3%.
Mmh.
En mars, on était à plus de 26%. Sur un an, on est toujours à plus de 28%. Donc, il faut voir. Et on reste au niveau de 4000 dollars. Donc, je pense, on peut penser, si vous voulez, qu'on est sur une correction, mais qui ne veut pas dire pour autant que l'or ne va pas repartir à la hausse dans le moyen long terme. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que ce qui a mis la pression sur l'or, c'est également les anticipations à la hausse d'augmentation des taux américains,
ouais.
qui sont plus ou moins aujourd'hui assurés, hein, ce qui n'était pas le cas il y a 6 mois, au contraire, puisqu'on s'attendait avec le nouveau responsable à plutôt une baisse. Donc tout ça, ce n'est pas favorable à l'or. Pour autant, si vous regardez les évolutions et les facteurs structurels, qui supportent le cours de l'or, ils sont toujours là. La demande des banques centrales est toujours là. Et à cet égard, il est intéressant de voir qu'il y a une enquête qui a été publiée par le World Gold Council auprès des banques centrales. Ils ont interrogé les principales banques centrales. Et 45% de l'ensemble des banques centrales déclarent qu'ils vont continuer à acheter de l'or dans les 12 mois qui viennent. Et 53% des banques des pays émergeants déclarent qu'ils vont le faire.
Donc, toujours cette dynamique de...
Dans cette volonté d'utiliser l'or... Ouais. comme réserve monétaire et comme devise internationale dans un mouvement de dédollarisation.
Hey,
l'autre chose, on est toujours, malgré tout, sur le plan économique, dans des incertitudes et dans un climat inflationniste.
Ouais.
Les guerres commerciales n'arrêtent pas, parce que dernièrement, le président Trump a déclaré qu'il allait de nouveau imposer des taxes de 100%, etc. Donc, tout ce contexte inflationniste, on l'a vu avec le pétrole qui a poussé à l'inflation, mais il y a un contexte inflationniste, dépréciation monétaire. Et il y a un chiffre intéressant que j'ai lu il y a 3 jours, c'est que entre 1995
ouais.
et 2025, le dollar a perdu 53% de son pouvoir d'achat et le prix de l'or a été multiplié par 10.
Mmh.
Donc là, on est dans ce contexte de dépréciation monétaire, si vous voulez, plus les dettes. les dettes des États. On a vu le chiffre français qui est impressionnant. Tout ce contexte.
Les chiffres américains sont pas mal non plus. Hein.
Non plus, bien sûr. Oui. Mais l'Amérique, si vous voulez, a l'avantage de faire payer aux autres sa dette, oui. Ce qui est un peu différent pour la France. Donc ce contexte est plutôt favorable à une tendance haussière du cours de l'or et qui devrait, à mon avis, il y a des paliers. Hein. 4 000 $, c'est fort quand même. 3 500 €, c'est fort. Voilà. Maintenant, on n'est pas à l'abri. La correction va-t-elle se poursuivre? Je pense qu'on est plutôt sur quelque chose d'une stabilisation.
Oui.
Et demain matin, je serai démenti, bien sûr. mais pour autant, on est sur un moment qui a été fort pour de baisse sur l'or, mais on est sur un contexte potentiellement favorable.
Oui, parce que c'est finalement ça qui est intéressant dans ce phénomène de flatline, on va dire. En fait, on reste sur des niveaux intéressants pour ceux qui ont connu l'or, qui est monté en flèche et au-delà des 5 000. En même temps, on reste sur une dynamique profonde qui est installée d'énormément de banques, et notamment, vous l'avez dit, des pays émergents qui cherchent à un petit peu mettre de côté leur exposition au dollar. Parallèlement, un dollar qui n'est pas si roi que ça, parce qu'on sent que ça peut repartir de manière phénoménale pour des questions budgétaires et à cause de la géopolitique. Donc, je dirais que on est sur un niveau parfait, finalement, pour l'or.
On est sur un niveau pas mauvais, mais c'est vrai que pour un certain nombre d'investisseurs, hein, on a tendance à investir, comme on le dit souvent en France, au moment où on voit la hausse, parce qu'on se dit, tiens, on va essayer d'y aller parce qu'il n'est pas trop tard.
J'en veux parce que ça monte, oui.
Voilà. C'est vrai qu'il faut toujours, ce qu'on disait la dernière fois, il faut toujours dissocier l'or ETF, l'or papier, de l'or physique d'investissement. Et donc, c'est vrai que pour des particuliers qui veulent avoir un produit très liquide, parce qu'on le voit même pour les ETF, hein, c'est la force de l'or aussi,
sa
liquidité, parce qu'on le vend du jour au lendemain sans aucun problème. Si vous, on le vend sur les ETF, c'est même pas du jour au lendemain, c'est en temps réel.
Donc,
c'est quelque chose qui est fondamental. La liquidité, ça reste quelque chose. On a découvert, si vous voulez. On a confirmé le rôle, la liquidité de l'or à travers ce qui s'est passé récemment.
Parce tout à fait, oui.
On cite les pays asiatiques, par exemple, du Sud-Est et les Moyen-Orient, qui importent énormément. Les pétrodollars, les pays donc les Émirats et les autres, l'Arabie Saoudite, ont vendu beaucoup d'or aussi pour pouvoir faire face aux importations.
Bien sûr.
Et les pays d'Asie du Sud-Est ont vendu de l'or pour pouvoir payer le pétrole. Donc c'est la liquidité aussi qui est là, qui est très importante.
Pétrodollar qui devient de l'euro-dollar.
Oui,
Bon, on n'achète pas le pétrole avec des barres d'or, ça, on est d'accord. Mais oui, il y a quelque chose qui est fantastique parce que on aurait pu croire que ça allait faire exploser les cours de l'or, les incertitudes géopolitiques. Au contraire, ça a fait de l'or un actif liquide qui a eu tendance à subir des phases de correction, mais qui en même temps reste là et reste la référence.
Et on peut dire qu'il y a quand même, alors les incertitudes géopolitiques, lorsqu'il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, là on a vu véritablement une tension géopolitique qui a porté le cours de l'or.
Ouais.
Mais là, il y a eu autre chose qui s'est passé, et je pense que c'est parce que sur les 2 ans qui viennent, l'or a été extrêmement acheté, il est monté très haut, et puis cette accélération brutale qu'on a vue au début de l'année 2026...
l'a mis clairement dans le scope.
...n'est pas très clair.
Oui,
on passe pas comme ça en quelques jours de 5 000 à 5 300.
Ouais.
Là, on était carrément sur de la spéculation. Mmh. Voilà.
Donc, généralement, en phase spéculative, c'est l'ETF qui part en premier.
Ouais,
et ensuite, les ajustements s'il y a des gros déséquilibres de marché. Merci infiniment pour ce point, encore une fois, très complet. François Delassus, consultant. Or, en cash, TPI, c'est fini pour aujourd'hui. Marie Cœur de Roy arrive dans un instant pour les experts de l'IMO. Et je vous retrouve à 15h30 aux côtés de Guillaume Sommerer pour BFM Bourse. À tout à l'heure.
Tout pour investir sur BFM Business.